France Inter, il est 13h. Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la réforme de retraite, entrée dans le vif du sujet. Réforme votée avant la fin de l'été prochain, précise ce matin Édouard Philippe. Et pour la méthode, on assume de ne pas aller vite.
Le nouveau système ne s'appliquerait entièrement qu'à partir de 2040. Vous voyez que nous sommes prêts à nous donner tout le temps nécessaire.
Le Premier ministre tente aussi de rassurer ceux qui bénéficient d'un régime spécial. Détail sur le passage vers un régime unique. Laurent Kramer nous explique. Demain, la première grève contre ce projet de réforme à la RATP. Elle s'annonce très suivie. Richard Ferrand doit-il démissionner après sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne? Non, répondent en bloc le gouvernement et les députés de la majorité. Dans l'opposition, ce n'est pas haro sur le président de l'Assemblée. Appel à la démission du PS par la voix d'Olivier Faure. Question sur le fond du dossier. Comment est-on passé d'un classement sans suite à une mise en examen? Qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Corinne Audouin nous explique. 5 des plus grandes villes de France interdisent les pesticides sur leur territoire. Paris, Lille, Nantes, Clermont et Grenoble. La décision est avant tout politique. Comment peut s'organiser la consigne des bouteilles plastiques? Un rapport remis au gouvernement. Son auteur est notre invité. Quel prix si l'on rapporte les bouteilles? Dans l'actualité, encore 3 mois d'apocalypse. C'est ce que promet un rapport sur le Brexit publié en Grande-Bretagne. En Italie, Salvini parti. La politique d'immigration va-t-elle radicalement changer? Conseil des ministres à Rome. Et puis l'actualité des sciences. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Nous consommions du lait il y a très longtemps déjà, c'est bien cela?
En Angleterre, oui. Depuis 6000 ans, et la preuve est cette fois directe dans la bouche des hommes de Cro-Magnon sur le tartre de leurs dents.
Vous nous donnerez les détails tout à l'heure. La Terre au carré, Mathieu Vidard, bonjour.
Bonjour Bruno.
Nous allons pédaler aujourd'hui.
Oui, êtes-vous un adepte du vélo en ville?
Oui, monsieur.
Qu'attendez-vous de votre municipalité à ce sujet? Dites-le nous à notre chercheur Sébastien Marais qui a comparé la pratique du vélo en France et aux Pays-Bas.
Et je compose tout de suite le 01 45 24 7000 et pour les réseaux sociaux, le mot-clé c'est la TAC. Allez, de 13h à 14h30, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter.
La réforme des retraites devrait donc être votée avant la fin de l'été prochain. La fin de la session parlementaire de l'été prochain, pour être précis. Cela fait partie des précisions apportées ce matin par Édouard Philippe au Conseil économique et social. La consultation citoyenne commencera en septembre sur ce projet de réforme des retraites. Elle s'achèvera à la fin de l'année. Voilà pour le calendrier. Consultation par Internet, notamment, une plateforme numérique sera mise en place. Et sur la méthode, écoutez un extrait du discours d'Édouard Philippe.
Nos convictions, n'en doutez pas, sont fortes et notre détermination est entière. Mais la réforme n'est pas écrite. Nous avons besoin de l'engagement de tous et nous sommes prêts à prendre le temps qu'il faudra. En ce qui concerne les retraites, ce temps long, nous l'assumons. Nous avons le temps d'examiner chaque situation. Nous avons le temps de faire converger les régimes de manière progressive. Nous avons le temps de lever les inquiétudes et les malentendus. Je crois aussi que les Français sont prêts à se saisir de cette question. Bien au-delà des caricatures, bien au-delà des postures. Et je crois que le meilleur moyen de reconstruire la confiance dans notre système de retraite, c'est de faire confiance dans la capacité de chaque Français à en comprendre les enjeux, à les évaluer, à en débattre, pour écrire avec nous, avec les partenaires sociaux, les termes de ce nouveau contrat entre les générations.
Nous avons le temps, on a compris la phrase clé. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
En direct du Conseil économique et social avec Frédéric Kérou. Alors rappelons que le grand principe de cette réforme, c'est de passer d'une multiplicité de régimes de retraite à un régime unique, à point. Et pour ceux qui bénéficient d'un régime spécial, il y a évidemment la crainte parfaitement légitime d'y perdre. Édouard Philippe a tenté de les rassurer, la transition se fera en douceur.
Oui, c'est la seule façon de rassurer les Français et les régimes spécifiques. Eh bien, c'est de leur donner du temps au temps. Le principe de la réforme des retraites sera bien bouclé d'ici l'été. Mais le Premier ministre insiste, tous les avantages acquis des Français seront garantis. Il y aura donc des négociations par profession pour envisager des délais de transition vers le nouveau système. Objectif, garantir à chaque Français que les salariés en place aujourd'hui ne basculeront pas dans ce nouveau régime tant que ces transitions n'auront pas été concertées et arrêtées. Le Premier ministre ouvre donc la porte à de très longues transitions vers le nouveau système des retraites. Dans le viseur, les professions libérales, les indépendants, infirmières, avocats, médecins et bien évidemment les 42 régimes spéciaux. Cette réforme des retraites ne s'appliquera que lorsque les modalités de passage, explique Édouard Philippe, les plus justes seront garanties pour tous les Français, à savoir pas avant 2040.
Merci Laurent Kramer pour toutes ces précisions. La première grève s'annonce massive demain contre ce projet de réforme des retraites. C'est à la RATP, les transports parisiens. 7 syndicats, dont les 3 principaux, appellent à une mobilisation générale. Il sera très difficile de circuler. Comment faire dans ces conditions? On voit cela dans un instant avec vous, Delphine Evenou, et les détails sur la circulation. D'abord, les arguments des grévistes. Écoutons Thierry Barbec de l'UNSA RATP. Le projet prévoit donc un même régime de retraite à points pour tout le monde. Et les grévistes défendent leur régime spécial, plus avantageux, mais qui compense d'autres choses.
La retraite à la RATP, c'est la seule compensation aux contraintes du service public. C'est d'ailleurs le discours qui est tenu dans l'entreprise depuis des décennies. Donc ce qu'on pressent, c'est qu'on va nous laisser nos contraintes de service public parce qu'elles sont incontournables, bien évidemment, et qu'on n'aura plus de compensation. Est-ce que vous pensez que tous les métiers se valent, ont les mêmes contraintes, les mêmes conséquences sur les salariés? Il y a une différence entre l'égalité, l'égalitarisme et l'équité. Il faut prendre en compte les particularités des métiers.
Voilà pour ces arguments. Pour les passagers, demain, une journée difficile s'annonce. Aucun métro à Paris sur les lignes 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 11, 12 et 13. Ailleurs, ce sera très difficile. Ce sera difficile dans le tramway, ce sera difficile dans le bus. RER A et B également. Pas d'interconnexion Gare du Nord. Vous avez tous les détails sur les différents sites internet. Delphine Evenou, si on est francilien, comment fait-on demain?
Alors, la consigne, Bruno, diffusée partout depuis plusieurs jours, c'est éviter à tout prix de vous déplacer. Une journée de repos, du télétravail. Depuis la fin de semaine dernière, la RATP a prévenu les grandes entreprises de la Défense et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris pour faire passer le message. Pour ceux qui vont se risquer, la RATP va renforcer le nombre de gilets rouges en gare pour faire de la canalisation, c'est leur terme, car il y a un risque de saturation sur les lignes 1 et 14 automatisées, donc pas touchées par la grève, et sur les RER C, D, E et les Transiliens gérés par la SNCF. Il y a également les transports alternatifs. La RATP a passé des accords avec différentes plateformes grâce à des codes réduction pour les parkings Zen Park ou les courses opérées par Captain. 30 minutes gratuites avec CityScoot, 2 fois 15 minutes avec les vélos et trottinettes électriques de Jump, covoiturage gratuit avec l'Axit. Ça nécessite d'avoir un smartphone et de créer un compte. Sinon, il reste toujours la marche à pied pour les courageux. Il faut compter 2 heures par exemple, pour relier la porte de la Chapelle au nord à la porte d'Orléans au sud.
Je suis sûr que vous allez beaucoup plus vite que ça. RATP.fr pour tous les détails sur ce que vous venez de dire, Delphine, et évidemment sur les conditions de circulation, les métros qui ne roulent pas du tout ou un petit peu. Vous verrez ça donc sur RATP.fr. Ce jeudi devait être le jour de mise en orbite de la réforme des retraites. Ce sera aussi, peut-être d'abord, celui de la mise en examen d'un pilier de la majorité. Richard Ferrand, 4e personnage de l'État, président de l'Assemblée nationale, mise en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Les détails juridiques dans un instant avec Corinne Audouin. D'abord, les réactions à l'Assemblée nationale. Reportage de Laurent Lucas et Cécilia Arbona. Les rangs étaient clairsemés ce matin à l'Assemblée et le président du groupe En Marche était au charbon.
Oui, un pompier agacé mais qui fait le travail. Gilles Legendre, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, répète la même chose.
Il exerce ses fonctions de président de l'Assemblée nationale dans la plénitude, la totalité de ses responsabilités. En aucun cas, cette procédure n'affaiblit et n'affecte son autorité.
Il n'est pas question aujourd'hui qu'il démissionne, même qu'il y pense.
Il n'en est pas question et aucun de nous n'y pense.
C'est faux, tout le monde y pense au contraire, estime Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche.
La majorité est complètement désorientée. Hier, on n'intervenait pas au nom de la séparation des pouvoirs. Dès le petit matin, on a un soutien clair du président de la République. C'est la panique à bord. Et tout le monde a bien senti que c'était la catastrophe. Mais vouloir à tout prix demander immédiatement la démission du président de l'Assemblée, ça peut être dangereux.
Dangereux, oui, et il serait plus facile, en fait, si la décision venait de Richard Ferrand lui-même. C'est ce que glisse Hubert Mulfranc, député communiste de Seine-Maritime.
Je dis aujourd'hui que c'est difficilement tenable. Le rôle politique de Richard Ferrand en tant que président de l'Assemblée nationale est nécessairement fragilisé. Et bien évidemment, c'est un élément de sa décision qui va peser.
Un homme fragilisé, ménagé par les parlementaires, pas encore torpillé, mais jusqu'à quand ?
Merci Cécilia Arbonnat en direct de l'Assemblée nationale pour France Inter. Alors cette affaire embarrasse le président de l'Assemblée quasiment depuis le début du quinquennat. Il l'avait contraint à quitter le gouvernement en 2017. En résumé, il est soupçonné, présomption d'innocence, d'avoir profité de sa fonction pour favoriser la société immobilière de sa compagne quand il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Le dossier avait été ouvert une première fois par la justice à Brest, classé sans suite. Et voilà que 2 ans plus tard, à Lille, Richard Ferrand est mis en examen. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Question simple, comment est-on passé d'un classement sans suite par le parquet de Brest à une mise en examen par des juges d'instruction de Lille?
Alors petit rappel, en juin 2017, après les révélations du Canard Enchaîné qui révèle donc l'affaire, le parquet de Brest ouvre une enquête préliminaire, constate qu'il n'y a pas eu d'abus de confiance ni d'escroquerie, puisque le loyer payé par les mutuelles de Bretagne, dirigé à l'époque par Richard Ferrand, à Sandrine Doucen, sa compagne, était conforme au marché. Alors en revanche, sur la question de la prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire le fait d'utiliser une mission de service public pour en tirer un avantage privé, le parquet de Brest estime alors que la question peut se poser, mais que les faits, qui remontent à 2011, sont prescrits. Et c'est là que l'analyse des juges d'instruction de Rennes est différente. L'enquête a montré qu'au sein du conseil d'administration des mutuelles de Bretagne, qui avait donc approuvé le choix de ce local, certains administrateurs savaient que la propriétaire était la compagne du directeur, mais pas tous. Le président des mutuelles dit par exemple être tombé de l'armoire quand il l'a appris. Or, en cas d'infraction dissimulée, le délai de prescription ne commence qu'à la révélation des faits, c'est-à-dire possiblement ici en 2017, quand le Canard Enchaîné révèle ses informations. Cette question de la prescription, on le voit bien, fait l'objet d'analyses différentes. Elle sera au cœur de la bataille juridique à venir, puisque Richard Ferrand dit, lui, qu'il n'a rien dissimulé.
Lecture juridique que vous venez de nous faire, est-ce qu'il y a une lecture politique?
Alors, depuis 2013, la loi interdit à la chancellerie de donner des instructions individuelles au parquet, justement pour éviter toute ingérence politique. Mais selon Jérôme Carsenti, l'avocat de l'association Anticor, à l'origine de la plainte, eh bien, le parquet de Brest s'est montré frileux.
On a un système pervers en France qui est un système pour le parquet qui est un parquet non indépendant. Vous savez qu'en France, le procureur de la République dépend du pouvoir exécutif et qu'il est sous l'autorité du pouvoir exécutif. Donc voilà, pour toutes les affaires politico-financières, lorsque ce sont des parquets locaux, il y a un sentiment, je pense, assez rétif de pouvoir poursuivre des personnalités de premier plan. L'idée était de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour avoir un juge d'instruction indépendant. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une justice indépendante qui travaille sans contrôle du pouvoir exécutif. Et finalement, elle avance bien, cette justice.
Alors, cette mise en examen sera-t-elle contestée par Richard Ferrand? Cela semble probable. Son avocat n'a pas donné suite à nos appels.
Merci Corinne Audouin. Un dernier éclairage sur cette affaire pour ce journal de 13h. Bonjour Cyril Gradiani.
Bonjour.
Nous allons à l'Élysée avec vous. Soutien en bloc total de l'Élysée à Richard Ferrand.
Et les consignes étaient claires ce matin et écrites. Je cite, le message bien insisté sur le fait que Richard Ferrand dispose de toute la confiance du président de la République. La Macronie vole au secours d'un incontournable, un des tout premiers soutiens du président qu'il avait appris à connaître lorsque ce dernier, alors ministre de l'économie, avait présenté la loi Macron en 2014, texte dont le rapporteur n'était autre que Richard Ferrand. Emmanuel Macron n'est pas du genre à lâcher ses proches, on l'a vu à de nombreuses reprises, a fortiori quand ils sont dans la tourmente judiciaire ou médiatique. Sauf que cette intervention en coulisses de l'Élysée, l'opposition s'est engouffrée dans la branche, on l'a entendu, accusant le président de ne pas respecter la séparation des pouvoirs. Gêne aussi chez les députés de la majorité. C'est d'ailleurs cela que les proches de Richard Ferrand vont essayer de contenir et de calmer dans les prochaines heures. Mais parfois, quand le timing judiciaire rentre en collision avec le politique, eh bien ça peut faire des dégâts. Surtout en ce jour de présentation de la réforme des retraites par le Premier ministre, des consignes, une nouvelle fois, ont été passées en interne aux marcheurs, de la discrétion pour que Édouard Philippe puisse présenter sa réforme sur le plateau de TF1 et ne pas passer son temps à répondre à des questions sur Ferrand, pas sûr.
Merci Cyril Gradiani. Édouard Philippe, en effet, invité de TF1 ce soir à 20h à l'origine pour parler des retraites, mais il y aura effectivement d'autres sujets.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Comment organiser la consigne des bouteilles plastiques et à quelles conditions peut-elle être efficace? Un rapport est remis aujourd'hui au gouvernement à ce sujet et son auteur est notre invité. Bonjour Jacques Vernier.
Bonjour.
D'abord, question toute simple, est-ce que la France est en retard par rapport aux autres dans le domaine?
Bah, écoutez, elle n'est ni en retard ni en avance. Actuellement, sur les 30 pays de l'Union européenne au sens large, il y en a 10 qui sont déjà au régime de la consigne et 5 ont déjà décidé définitivement de le faire dans les 3 prochaines années.
Alors, vous posez des conditions pour que ce régime de la consigne marche. Allons tout de suite sur le sujet qui fera tilt dans la tête de beaucoup de nos auditeurs. Le prix de la bouteille quand on la ramène.
Ah bah écoutez, la consigne, on peut penser qu'elle sera entre 10 centimes et 15 centimes. Oui. Et évidemment, elle sera payée à l'achat, mais remboursée chaque fois que les gens ramèneront leurs bouteilles ou leurs canettes, parce que ça concernera aussi les canettes en métal.
Où est-ce qu'on les rapportera ?
Bah écoutez, on les rapportera normalement sur tous les points de vente, c'est-à-dire dans les grandes surfaces, dans les petits commerces. Donc tous ceux qui distribuent des bouteilles en plastique ou des canettes seront amenés à les reprendre.
À quelle consigne, monsieur, à quelle condition, pardon, la consigne peut-elle être efficace et favoriser le retraitement et le recyclement? Et le recyclage.
Comme on a, au fond, payé la consigne au départ et qu'elle est remboursée quand on ramène la bouteille, évidemment, c'est une incitation, la bouteille ou la canette, c'est une incitation à la ramener.
À mes côtés, Sandy Dauphin, spécialiste écologie de France Inter. Une question de Sandy.
Oui, il y a beaucoup de maires qui sont très en colère contre l'idée de cette consigne, qui disent « vous allez déréguler tout notre système de collecte dans les bacs jaunes et surtout vous allez nous enlever le seul plastique qui a un peu de valeur dans les bacs jaunes, les bouteilles en plastique qui sont facilement recyclables. Comment les apaiser ?»
Mais écoutez, j'ai une réponse très simple dans mon rapport qui démontre que les collectivités locales, les communes, les mairies ne seront absolument pas lésées puisque la loi Grenelle, qui avait été votée il y a 10 ans, définit clairement ce qui doit être payé aux mairies et ce chiffre-là ne changera pas.
Mais les gens ne mettront plus donc chez eux les bouteilles en plastique dans leur bac jaune ?
Ah, bien sûr. L'idée, si vous voulez, c'est actuellement le taux de collecte des bouteilles en plastique, par exemple, est de 55% en France.
Et 30%
alors,
pour les canettes.
Il y a une directive européenne qui dit que maintenant on doit collecter beaucoup mieux le plastique pour qu'il ne se retrouve pas dans la nature, dans les océans, etc. Et on doit passer en quelques années, d'ici 10 ans, de 55 actuellement à 90. Et par conséquent, la consigne peut être un moyen, et s'est révélé être un moyen efficace pour que les gens ramènent leurs bouteilles après usage.
Merci Jacques Vernier d'avoir répondu à nos questions et on continuera évidemment de suivre ce débat sur les consignes et les bouteilles en plastique, surtout après les 2 journées que nous avions consacrées au plastique. Non merci. Sandy Dauphin, vous êtes déjà à mes côtés. Restez ici pour parler de cet autre sujet d'actualité ce matin. 5 villes de plus qui interdisent les pesticides sur leur territoire et pas des moindres. Paris, Lille, Nantes, Grenoble, Clermont. Démarche commune des 5 maires, tous de gauche ou écologistes, alors qu'une 50aine de leurs collègues en France ont déjà pris des arrêtés anti-pesticides pour éviter des épandages trop près des maisons. Là, Sandy, il s'agit carrément d'interdiction. C'est une annonce avant tout politique, ça montre que la fronde gagne en ampleur.
Oui, avant-hier, déjà une poignée de maires anti-pesticides de petites communes ont fait une photo de famille devant l'Assemblée nationale avec des écriteaux « Stop aux pesticides » accompagnés de quelques élus Europe Écologie Les Verts, dont la députée européenne Michèle Rivasi qui lançait un appel pour amplifier la fronde.
Bravo au niveau des maires qui ont fait ces arrêtés préfectoraux. Il faut que la population suive, il faut que les consommateurs suivent. Il faudrait qu'il y ait 36 000 maires qui fassent ces arrêtés.
Aujourd'hui, 5 grandes villes rejoignent le mouvement, dont Paris. Pourquoi un nouvel arrêté alors que la capitale interdit déjà depuis plusieurs années les pesticides dans les parcs, la voirie, dans les cimetières? La réponse de Pénélope Comites, adjointe à la maire de Paris en charge des espaces verts.
On a ce qu'on appelle un trou dans la raquette, c'est-à-dire que aujourd'hui, potentiellement, vous avez sur le territoire parisien des copropriétés, par exemple, des grandes entreprises, des opérateurs ferroviaires comme la SNCF, la RATP, qui potentiellement ont des surfaces pour lesquelles ils font appel à des entreprises qui, elles, sont autorisées à utiliser ces produits.
L'adjointe à la maire de Paris reconnaît que c'est aussi une façon d'être solidaire avec les petites communes rurales qui ont pris jusqu'à présent ce type d'arrêté. Vous le disiez en préambule, Bruno, ces 5 grandes villes sont de gauche ou écologistes. Il faut bien sûr un petit parfum de campagne municipale.
Merci Sandy Dauphin. Un chiffre important ce matin dans l'actualité de la santé, le bilan d'un an de téléconsultation. 60 000 téléconsultations ont été menées en un an, 30 000 patients concernés et ça augmente au fil des semaines de plus en plus. La téléconsultation se met en place.
Le rapport que le gouvernement britannique gardait sous le coude a fini par sortir sous la pression. Yellow Hammer, marteau jaune, quelles conséquences en cas de Brexit dur? Eh bien, c'est un scénario assez apocalyptique qui est décrit dans les premières semaines tout au moins. Des embouteillages gigantesques, des camions bloqués pendant plus de 2 jours dans les ports, à la frontière. La disparition probable de certains médicaments, notamment contre le diabète. Des produits frais qui manqueraient dans les supermarchés. Une augmentation générale des prix de la nourriture et de l'essence. Les médicaments. Zoomons sur ce sujet avec vous, Antoine Gignot. Affolement des malades à la publication de ce rapport. Reportage ce matin.
Sans ces médicaments, elle pourrait perdre la vue ou l'usage de ses jambes. Wendy Novak est diabétique, branchée sur les informations 24 heures sur 24. Elle aussi entre la peur et la colère.
Je suis extrêmement inquiète face à cette situation. Je prends 2 sortes d'insuline. L'une que je prends avant de manger et l'autre que je prends le soir pour contrôler mon taux de sucre. Les 2 médicaments viennent des Pays-Bas et personne n'a l'air de pouvoir nous garantir que l'approvisionnement va continuer et que les gens ne vont pas mourir.
Car le rapport Yellowhammer, qui liste les potentielles catastrophes d'un Brexit dur, évoque le manque probable de médicaments sans apporter de solution. Il faut d'urgence des précisions, explique May Van Chalkwyk, médecin spécialiste de la santé publique à l'Imperial College de Londres.
On n'a toujours pas de détails sur l'impact qu'il pourrait y avoir. Quel sera l'impact du manque de médicaments, l'impact du manque de nourriture, l'impact d'une récession? Dans le rapport Yellowhammer, il est écrit que ce sont les personnes les plus vulnérables qui seront les plus touchées.
Le gouvernement, de son côté, tente d'atténuer l'impact de cette publication. Il ne s'agit que d'une hypothèse, une simulation du pire des cas, explique Ben Wallace, le ministre de la Défense. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
En Italie, le gouvernement sociodémocrate et populiste des 5 étoiles peut se mettre au travail après avoir obtenu en début de semaine la confiance du Parlement. Conseil des ministres aujourd'hui, et c'est notamment la volonté de chasser l'extrême droite du pouvoir qui a amené les 2 partis, naguère ennemis, à s'entendre. Fini donc Matteo Salvini au ministère de l'Intérieur. Est-ce que la politique de l'Italie en matière d'immigration va radicalement changer? Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
Un correspondant de France Inter à Rome. C'est une technicienne, hein, Luciana Lamorgese, qui remplace Salvini, Bruce.
Ah oui, et elle n'a pas Twitter ni même Facebook. La communication de la nouvelle ministre de l'Intérieur va donc bel et bien changer. Pas de selfie, pas de first boy live pour s'afficher avec ses partisans ou dénoncer les ONG, non. Luciana Lamorgese n'a de toute façon pas l'intention de le faire, ni le profil. Elle a été nommée à ce poste clé pour dépolitiser la question migratoire. Et c'est en effet une technicienne, pas une politique. Elle a fait toute sa carrière au ministère de l'Intérieur. Elle y a passé près de 40 ans. En 2013, elle devient chef de cabinet. Et pendant 4 ans, sous les gouvernements démocrates de Letta, Renzi et Gentiloni, c'est elle qui va gérer en direct les afflux continus de migrants et la crise qui suivra. Puis, lorsque la Ligue et les 5 étoiles arrivent au pouvoir, elle devient la première femme préfète de Milan, de gauche pour ceux qui militent à droite, de droite pour ceux qui militent à gauche. Luciana Lamorgese a déjà annoncé la couleur de sa politique d'accueil des migrants. C'était en 2017, elle la veut équilibrée et soutenable. Pour la nouvelle ministre et son gouvernement, accueillir, oui, mais que chacun prenne sa part en Europe sous peine de sanctions financières. C'est le deal que Rome veut désormais passer avec Bruxelles.
Bruce de Galzin en direct de Rome. L'actualité européenne encore avec la chronique de Delphine Simon. Comment ça se passe ailleurs en Europe? Chaque jeudi dans ce journal de 13h. Il y a un an, le gouvernement lançait son plan de lutte contre la pauvreté. La philosophie du plan, c'est de mieux accompagner les bénéficiaires du RSA, lancer la fusion des minima sociaux, mettre l'accent sur la petite enfance. Nous en parlions mardi avec l'invité de ce journal. Les mesures se mettent très progressivement en place. On considère qu'il y a près de 9 millions de pauvres en France. Sommes-nous plus ou moins bien lotis que nos voisins européens? Bonjour Delphine.
Bonjour.
Comment ça se passe ailleurs en Europe? 116 millions de pauvres, Delphine Simon. Quel pays en compte le plus et le moins?
Eh ben, c'est le grand écart. En France, on est pauvre avec moins de 1026 euros de revenus par mois. C'est ce qu'on appelle le taux de pauvreté monétaire. Il correspond à 60% du niveau de vie médian. C'est un peu technique. Mmh. Mais pour aller vite, ce seuil sépare la population en 2 parts égales. Selon ce critère, en Europe, les pauvres, les moins pauvres, si on peut dire, habitent en Suisse et en Norvège, où le seuil de pauvreté est de 1300 euros. À l'autre bout de l'échelle, on est pauvre en Roumanie avec moins de 265 euros par mois.
Sauf que évidemment, Delphine, le niveau de vie est beaucoup plus élevé
en Norvège qu'en Roumanie.
Oui, du coup, un autre critère peut paraître plus fiable, c'est le taux de pauvreté matérielle et sociale. En gros, la question, c'est de savoir de quoi on se prive au quotidien, alimentation, logement ou vacances. Et selon ce critère, il y a beaucoup plus de pauvres à l'est qu'à l'ouest et au sud qu'au nord, par exemple, à peine 3% de pauvres en Suède et quasiment 50% en Roumanie.
Le modèle européen pour lutter contre la pauvreté, c'est la redistribution. Est-ce que ça permet vraiment de réduire la pauvreté?
Oui, mais moins qu'avant la crise. Selon Eurostat, le modèle social européen se dégrade, y compris dans les pays scandinaves, pourtant réputés très protecteurs. En 2010, les prestations sociales permettaient de réduire la part des personnes pauvres plus efficacement qu'aujourd'hui, constate Eurostat. L'impact baisse fortement au Portugal, mais aussi au Danemark ou en Suède. Et ça, c'est dû au fait que la plupart des pays ont dû réduire drastiquement leurs dépenses publiques après la crise de 2008. La France limite la casse, l'impact des prestations sociales a moins baissé chez nous qu'ailleurs. Seule exception notable en Europe, la Finlande.
Qui a maintenu le niveau de ses prestations sociales.
Absolument, voire qui les a augmentées.
Globalement, le filet est un peu moins épais, le filet de sécurité. Est-ce que les transferts sociaux sont efficaces pour réduire la grande pauvreté, notamment chez les jeunes?
Oui, car certains n'ont pas accès à ces aides sociales. Or, la grande pauvreté progresse un peu partout, en Italie, en Espagne et en Grèce, et même dans des pays dits riches, l'Allemagne, la Suède ou la Norvège. Encore une fois, la France limite la casse. La grande pauvreté n'a pas augmenté chez nous. Elle baisse même un peu depuis 2010.
Merci Delphine Simon, franceinter.fr pour retrouver votre chronique sur la page du journal de 13h. Pronuptia, le spécialiste des robes de mariée, est en liquidation judiciaire. C'est une information de nos confrères de France Bleu Mayenne. Le siège de l'entreprise est en Mayenne. On cherche donc un repreneur. 234 personnes travaillent pour Pronuptia en France. On apprend plein de choses en regardant très attentivement des dents, même des dents de personnes ayant vécu il y a 6000 ans. C'est donc ce qu'ont fait des archéologues. Sophie Becherel, vous nous en parliez dans les titres. Ils ont découvert que nos ancêtres britanniques consommaient du lait. Alors, on le savait plus ou moins déjà, en tout cas les spécialistes, mais cette fois-ci, la preuve est directe et elle n'empêche pas les scientifiques d'être perplexes car au néolithique, nos ancêtres ne digéraient pas le lait.
Voilà, alors on va reprendre.
Oui,
c'est vrai qu'il
ne
faut pas être plus direct. Des protéines de lait sur le tartre des dents des Anglais, donc dans leur bouche. Jusqu'ici, on avait deux preuves scientifiques. L'arrivée de l'élevage partout en Europe au néolithique, c'est-à-dire entre 10 000 et 5 000 ans en arrière, et la découverte de peaux à faisselle en Pologne, toujours au néolithique. Donc, nouvelle preuve. Et pourtant, comme vous le disiez, plus on en sait, moins on comprend le hiatus, car au néolithique, l'homme était majoritairement intolérant au lactose du lait. Si le bébé digère le lait en grandissant, les hommes perdent la capacité de produire la lactase, l'enzyme qui casse le lactose et permet cette digestion. Ils la perdent, sauf ceux qui, comme 75% des Européens du Nord, dont nous, ont gardé les gènes de la tolérance. Alors il y a bien une solution, consommer non pas le lait liquide, mais les produits fermentés, le yaourt ou le fromage. Mais cela n'explique pas comment l'évolution génétique a conduit certaines régions du monde à garder le gène de la tolérance au lactose et donc au lait liquide. L'étude anglaise n'apporte pas de réponse. Avec ses traces sur les dents, les scientifiques restent sur le dossier.
Eh bien, écoutez, merci Sophie Becherel. Nous avons donc terminé ce journal dans la bouche de Britanniques d'il y a 6000 ans. La météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Élodie Calac.
Sur la Vendée, de la Bretagne vers le nord de la Seine, le bassin parisien, la Lorraine, les nuages essaient de se morceler, des éclaircies se dessinent, certainement plus timides près de la Manche sur la région parisienne et les Hauts-de-France. Partout ailleurs, c'est du soleil. On ajoute un petit vent de nord en vallée du Rhône et vers les Pyrénées-Orientales. Les températures poursuivent leur hausse, 20 degrés au Havre et à Brest, 24 à Lille, 25 degrés à Paris, à Nantes, 27 à Strasbourg, Lyon, Bordeaux, 29 à Albi, Marseille et Bastia et 32 à Nîmes. Demain, c'est à nouveau au nord de la Loire que l'on trouvera les nuages avec quelques gouttes possibles entre la Manche et le nord de la Seine. Ailleurs, du soleil. Il fera 20 à 30 degrés au nord et 28 à 33 au sud.